Le droit et nous, dans le plus de la grande matinale sur Africa Radio.
Après avoir traité l'épineuse question de l'entrepreneuriat des diplômés étrangers en France, nous avons reçu beaucoup de questions d'auditeurs en France et depuis Abidjan, Libreville, Brazzaville, relatives à l'entrepreneuriat des étrangers en France et au refus de visa pour étudier, travailler, créer une entreprise en France ou tout simplement venir y vivre légalement. Bonjour Aliutal.
Bonjour Phil.
Alors nous apportons des réponses à ces questions qui préoccupent beaucoup d'Africains ayant des proches en France, désirant venir étudier ou travailler en France, ou ce qui demande comment ils peuvent obtenir la nationalité française. Ils sont déjà nombreux à nous appeler, ils sont au cœur du standard, ne bougez surtout pas. Alors, première question Aliutal. Nous terminons d'abord notre propos de la semaine dernière en répondant à cette question. Avec la nouvelle réglementation en vigueur, quels conseils donnez-vous aux étrangers diplômés en France qui souhaitent créer leur propre emploi par l'entrepreneuriat et à nos auditeurs en Afrique qui souhaitent venir travailler ou entreprendre en France? Que dites-vous?
Exactement. Ce que je dis, c'est d'abord pour rappeler là où on en était la dernière fois, qu'un auditeur nous avait appelé d'Abidjan pour savoir si, avec son titre de séjour italien, il peut venir étudier légalement en France. Un autre nous a appelé la semaine dernière aussi pour savoir si, avec un titre de séjour italien de 5 ans, il peut travailler légalement avec un patron français qui lui propose un contrat. Nous avons aussi expliqué aux auditeurs comment on peut venir travailler légalement en France avec un contrat signé depuis l'étranger avec un employeur qui est lui en France, par ce qu'on appelle la procédure d'introduction d'un travailleur étranger. Et enfin, nous avons expliqué que l'étranger qui valide en France un diplôme de niveau master peut continuer à y séjourner légalement après ses études en créant une entreprise. Ce qui nous ramène à la question d'aujourd'hui, quels conseils on donne maintenant à ces auditeurs qui envisagent de venir ici y travailler ou surtout y créer une entreprise légalement, qu'ils soient ici en France ou depuis l'étranger, à Abidjan, à Brazzaville, à Kinshasa ou autre. Premier conseil que nous leur donnons, c'est que si vous êtes diplômé en France et que vous souhaitez y entreprendre, c'est de ne pas commencer la procédure avant d'avoir pris ce qu'on appelle la carte de séjour, recherche d'emploi, création d'entreprise, anciennement autorisation provisoire de séjour, parce que la situation de l'emploi vous sera opposable. Or, si vous envisagez de créer une entreprise pour rester légalement vivre en France, faites-le davantage, surtout après avoir pris ce qu'on appelle maintenant la RECE depuis le 1er mars 2019.
C'est quoi la RECE?
C'est la carte de séjour qu'on appelle recherche d'emploi RE, création d'entreprise CE.
D'accord.
Et qui remplace, qui vient en lieu et place de ce qu'on appelait l'APS.
D'accord.
Et comme on l'a expliqué, cette carte maintenant, on peut théoriquement, dans le principe, l'avoir même si on rentre dans son pays d'origine après avoir validé un diplôme en France et ce jusqu'à 4 ans, les 4 ans qui suivent votre départ du territoire français. Donc, aussi, un autre conseil, de ne pas faire un budget prévisionnel trop ambitieux. Parce que les étudiants montrent parfois qu'ils ont du talent en créant des budgets prévisionnels ou surtout des business plans avec un expert.
D'accord.
Qui va devenir un problème pour vous. Vous démontrez que vous êtes expert dans tout, que vous avez de bons produits et services à vendre. Et finalement, au bout du compte, un an après, vous avez du mal à prouver au regard de la préfecture que vous avez pu réaliser un bilan qui s'approche de votre budget prévisionnel. Le budget prévisionnel était à 60 000 euros, votre bilan est à 15 000 euros, ça veut dire que l'entreprise n'est pas viable.
Ouais.
Alors qu'on ne vous le demandait pas, on vous demande juste un budget prévisionnel qui vous permet de vivre avec le SMIC. Donc restez sur cela stricto sensu, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Parce que vous allez trouver des experts qui, imbus de leur expertise dans leur domaine, vous font des budgets prévisionnels ou des business plans qui ne vous arrangent pas du tout. Restez dans la simplicité, en droit administratif, en droit des étrangers, c'est ce qui va vous arranger. Aussi, autre conseil pour les Africains qui veulent venir travailler en France. Là, on parlait de ceux qui sont ici, qui sont à Abidjan, qui sont à Brazzaville, dans un autre pays étranger. On parle des Africains, mais c'est de manière globale, les étrangers. D'éviter les cabinets et les bureaux qui leur garantissent un droit au séjour en France, moyennant d'importants reliquats ou des sommes qu'il faut verser pour pouvoir venir ici. Il y a des officines, il y a des cabinets qui sont sérieux, mais il y en a d'autres personnes qui se déclarent experts dans la délivrance d'un titre de séjour.
Ouais.
Or, le seul expert dans la délivrance d'un titre de séjour, c'est la préfecture.
Exact.
Qui a un pouvoir discrétionnaire. Donc, il faut faire attention quand vous êtes à l'étranger.
Lorsqu'on remplit toutes les conditions.
Voilà. Et même si on remplit les conditions, cette préfecture ayant ce pouvoir discrétionnaire peut l'appréhender autrement. une fois que vous êtes là. Et de là-bas, ce sera le consulat qui a aussi ce pouvoir discrétionnaire parce qu'il représente dans votre pays d'origine l'autorité française, diplomatique ou consulaire. Donc, il faut faire très attention. Je donne un exemple d'un jeune qui nous a appelé,
oui.
qui est venu ici depuis Abidjan, en l'occurrence. C'est du vrai, ça ne remonte pas d'un mois. Il y a un bureau là-bas, c'est une bande organisée, très structurée, qui lui a promis, moyennant une somme importante en francs CFA, l'équivalent de 6 000 euros, 4 millions de francs CFA en moyenne, de venir ici et qu'il a la garantie d'avoir un droit à séjour. Comment ils ont fait ? Il a payé. Parce que les intervenants étaient plus ou moins crédibles. Ils ont organisé un mariage avec une personne qui est venue ici de France vers là-bas. Ils ont fait le mariage. Le monsieur s'est juste présenté, il n'a rien compris. On lui a donné des documents. Et avec les visas long séjour, valentie de séjour, il est venu ici. On lui dit maintenant, il faut aller à la préfecture.
Ouais.
Il ne savait même pas qu'il allait viser, qu'il devait viser ces visas-là. On lui a expliqué qu'il devait les viser pour que ce soit en titre de séjour au niveau de l'OFI. Après, il se pose maintenant la question du renouvellement. Il n'y avait aucunement une vie commune, ni effective, ni affective.
En France.
C'était juste un bon deal depuis Abidjan. Et les gens qui l'ont amené l'ont abandonné. Aucun téléphone ne marche plus. Donc là, c'est dangereux, c'est très délicat. On a compromis c'est l'avenir de cette personne qui se retrouve dans une précarité administrative. Il faut faire très attention. Deuxième conseil, de vérifier si le métier pour lequel vous avez eu un contrat de travail fait partie des métiers en tension dans la région où vous allez travailler. Vous êtes depuis un pays étranger, on vous propose un métier ici. A priori, il y a une procédure qu'on a expliquée la dernière fois d'introduction d'un travailleur étranger qui nécessite que votre employeur saisisse les autorités ici, en l'occurrence la directe, pour qu'on vérifie si la situation de l'emploi en France vous est opposable.
Ouais.
Parce qu'il y a déjà des demandeurs d'emploi en France, il leur paraît logique qu'avant de pourvoir un métier en étranger qui n'y est pas,
il
est plus logique de donner l'emploi à ceux qui sont déjà en chômage.
Il faut prouver
très bien. Mais il y a des dérogations. Et la majeure partie des pays africains ont signé avec la France des conventions de gestion des flux migratoires en annexe desquelles il y a des exemptions. Donc, vérifiez si le métier pour lequel vous envisagez de venir ne fait pas partie de ces métiers-là. Ou, dans la région géographique, il y a, par exemple, en Île-de-France, des métiers pour lesquels les employeurs ont du mal à recruter, comme par exemple dans les BTP, dans la restauration. Si c'est le cas, la situation de l'emploi ne vous est pas opposable. L'employeur qui est ici en France peut vous recruter depuis Abidjan ou bien depuis Madagascar, depuis Brazzaville. Et votre venue en France sera beaucoup plus facile. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de le vérifier ou bien de le faire vérifier par une personne qui a des connaissances sur ces questions-là, en l'occurrence un juriste, un avocat ou une association qui est dédiée à ces problématiques de droit des étrangers. Aussi, pour les Africains qui veulent entreprendre en France, il faut leur dire, si vous avez dans votre compte bancaire 20 millions de francs CFA et que vous avez un master, vous pouvez venir ici, vous déposer le visa là-bas. Pas besoin de micmac. La loi permet beaucoup de solutions que les gens ignorent. Ils vont mettre beaucoup d'argent pour espérer avoir un visa qui n'est pas un vrai visa, qui va leur créer des soucis. Alors que vous êtes déjà un entrepreneur à Yopougon, vous avez des restaurants où vous vendez des attiéqués avec un format très moderne et que vous voulez dupliquer ce format ici en France parce que les gens consomment beaucoup de produits exotiques.
Exact.
Vous voulez créer une boutique exotique, vous avez ce montant-là. Vous avez la possibilité, si vous avez une formation en gestion par exemple, vous avez un bac plus 4, vous pouvez depuis là-bas...
Alors, à l'UTEL, si je comprends bien, cette somme-là, l'argent peut faire la différence pour une régularisation ou pour une situation administrative
Effectivement, ceci est valable pour quelqu'un qui est déjà ici.
Mais dans la légalité.
Dans la légalité.
Ouais.
Qui a dû travailler, qui a dû capitaliser cette somme-là à travers le boulot, peut-être en empruntant un titre de séjour ou bien en travaillant sous alias.
Ouais.
Ça se fait et que les gens travaillent, ils auraient dû capitaliser cette somme. En créant une entreprise ainsi, en ayant le projet de créer cette entreprise avec cette somme-là, vous avez la possibilité d'avoir cette carte entrepreneur professionnel libéral. Et là, c'est dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, il faudra certifier qu'effectivement vous y êtes éligible. Si vous n'avez pas les 20 millions, ce qui est souvent le cas aussi, il y a une possibilité, il ne faut pas abandonner ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent.
Ouais.
Mais que votre projet a été reconnu innovant par un organisme ou une entreprise française compétente, vous pouvez aussi venir le réaliser en France. Et à ce titre, il faudra dire qu'il y a un certain nombre d'organismes et d'entreprises qui ont été labellisés pour reconnaître le caractère innovant de votre projet.
D'accord.
Si tel est le cas, le seul fait de l'innovation vous donne le droit d'avoir cette carte de séjour passeport talent. Donc ça, c'est très important. Aussi, donc, il faudra dire que dans tous les cas, vous gagnerez à avoir des partenaires qui sont déjà présents sur le territoire français.
Ouais.
Ça, c'est important. Ça va donner un gage de crédibilité à votre projet. Et donc, prenez soin de bien rédiger votre projet parce que ça veut dire qu'il doit être faisable et viable. Et cela doit vous permettre d'avoir au moins le SMIC, ça veut dire le salaire minimum qui est ici en France, environ pour le salaire brut de 1500 euros, le brut.
Voilà.
Voilà.
On va marquer une pause et revenir juste après. Vous êtes déjà très nombreux à nous appeler au 0155 07 58 00, précédé du 33 si vous nous appelez de l'étranger. Petite pause de 4 minutes et on revient pour le droit inné.
Le droit est nous, dans le plus de la grande matinale sur Africa Radio.
Bienvenue à tous. Après avoir traité l'épineuse question de l'entrepreneuriat des diplômés étrangers en France, nous avons reçu beaucoup, beaucoup de questions d'auditeurs en France, à Abidjan, à Libreville, Brazzaville, Tananarive, relative à l'entrepreneuriat des étrangers en France et au refus de visa pour étudier, travailler, créer une entreprise en France ou tout simplement venir y vivre légalement. À l'UTAL, existe-t-il d'autres moyens légaux pour venir travailler en France ?
Effectivement, quand on est à l'étranger qu'on veut venir, à part cette possibilité qu'on vient d'évoquer avec la carte passeport talent par la création d'une entreprise, il y a aussi la possibilité de venir ici quand vous êtes étranger et que vous voulez faire un investissement direct.
Ouais.
Là, ça s'adresse aux opérateurs économiques africains, carrément, qui ont une société, qui ont de l'argent, qui veulent investir. Ça peut être assez facile si vous témoignez que vous avez un investissement en vue. Vous aurez la carte de séjour aussi, toujours passeport talent. Il en est de même à l'étranger qui est artiste ou bien qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique. Je donne par exemple Pepe Kale, Papa Wemba, Youssou N'Dour, Didier Awadi. D'ailleurs, à ce titre-là, c'est aussi Didier Awadi. On avait fait une conférence à l'Université de Dakar pour étudier ces questions. Quelles sont les possibilités de mobilité internationale qui sont offertes par l'Europe et la France aux artistes africains. Et beaucoup d'entre eux l'ignoraient. J'ai fait cette conférence que j'ai animée avec eux et avec pas mal de mes étudiants et on s'est rendu compte que les gens l'ignoraient. Donc je vous dis que si vous êtes artiste africain dans le sens fort du terme, je ne veux pas dire que vous avez quand même enregistré un petit single avec votre ordinateur et que personne ne le connaît par votre voisin. Si vous êtes vraiment artiste, en l'occurrence, la loi vous le permet. Donc soit vous le faites à titre personnel ou bien vous avez un contrat avec une structure dédiée, ça veut dire qui fait de la production musicale ou bien cinématographique, vous avez la possibilité d'avoir cette carte. Et en dernier lieu, si vous avez une renommée internationale, vous êtes connu en Afrique par rapport à l'activité que vous faites et qu'on pense qu'une fois que vous êtes en France, vous pouvez avoir une activité dans un domaine scientifique, dans un domaine littéraire, vous écrivez des livres, vous êtes un peintre, vous êtes un artisan ou bien tout simplement un intellectuel qui fait des articles qui sont bien connus, vous avez des projets dans le domaine éducatif ou sportif, vous pouvez venir ici et c'est assez facile. Il faut faire juste ce projet-là et vous aurez la carte passeport talent. Vous pouvez aussi venir travailler accessoirement. Je donne l'exemple de quelqu'un qui est à Brazzaville et qui, à travers ses connexions ou ses recherches sur Internet, a pu avoir la possibilité de venir ici faire des vendanges ou bien de travailler l'été dans une zone où c'est touristique, les gens ont beaucoup, beaucoup de besoins. Vous pouvez avoir cette carte qui est de 3 ans. Depuis le 1er novembre 2016, cette carte de 3 ans renouvelable vous permet de venir, mais sachant que vous devez ressortir chaque 6 mois et votre résidence principale doit être dans votre pays d'origine.
Exact.
Ça permet juste à des gens de venir travailler et de retourner. Et maintenant, beaucoup d'Africains ne demandent que ça. Ils ne veulent pas venir juste pour regarder la Tour Eiffel et poster des belles photos sur Facebook. Ce qui les intéresse, c'est de travailler. Et ces gens ne vont pas consulter un problème au niveau de la gestion des flux migratoires. Donc, il faut saisir cette possibilité. Et en dernier lieu, il y a aussi... Donc voilà, ce travail c'est saisonnier. Et en dernier lieu aussi, il faut savoir qu'il y a d'autres possibilités. Si vous êtes au niveau familial, vous avez des connexions, on va y revenir. Ça, ce sont les possibilités de venir au titre du droit à une vie privée familiale.
Alors avant de prendre les auditeurs en direct, question d'une auditrice à Madagascar. Mon père vit en France, je suis né là-bas pendant qu'il était étudiant, mais je suis retourné à Tananarive avec ma mère alors que j'avais 12 ans. Mon père a obtenu la nationalité française par réintégration il y a 5 ans. Est-ce que je peux bénéficier de cette réintégration pour obtenir la nationalité française ou au moins un titre de séjour, bien que je sois majeur maintenant ?
Question très intéressante et qui concerne beaucoup d'Africains qui sont ici en France. Pour eux-mêmes ou bien pour leur famille, leurs enfants. Il concerne aussi beaucoup d'étrangers, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud et autres, que cette question intéresse. Mais il faudra dire que vraiment c'est dommage que les parents soient partis et fait partir l'enfant avant ses 13 ans, juste avant ses 13 ans. Parce que comme on le sait, on l'a traité, quand on est né en France et qu'on a été scolarisé ici jusqu'à l'âge de 13 ans, on peut réclamer sa nationalité française.
Exactement.
Donc quand ça vous arrive, avant de ramener votre enfant, quel que soit le motif, même si c'est un enfant difficile à gérer,
regardez,
12 ans et 13 ans, il fallait attendre quelques mois pour réclamer la nationalité et cette question ne se serait pas posée parce qu'elle serait déjà française. Elle pourrait même là-bas utiliser sa nationalité française à bénéficier de tous les avantages que cela offre depuis son pays d'origine. Mais cela n'est pas le cas, c'est dommage, mais si ça vous concerne, il faut penser à cela. son père a été réintégré, c'est la question qui nous a été posée. Réintégration, ça veut dire qu'il a eu auparavant la nationalité française. Probablement, il l'a perdu du fait de l'indépendance de son pays en 1960. Comme beaucoup de pays africains, le Madagascar a eu son indépendance en 1960. Mmh. Donc tout étranger né avant l'indépendance de son pays et qui vit et travaille régulièrement en France, ou bien qui vit et même s'il ne travaille pas à des mois de subsistance, peut recouvrer sa nationalité française par la réintégration.
D'accord.
Seulement, cette réintégration ne produit pas les effets qui permettent à cette personne de venir ici en France, contrairement à la naturalisation classique. Parce que l'enfant n'est plus mineur. Or, pour bénéficier de l'effet collectif de la naturalisation, il faut que l'enfant non seulement soit mineur, mais que cet enfant soit déjà sur le territoire français. Mmh. Elle ne remplit aucune de ces conditions. Donc,
ça va être difficile.
Notre auditrice malgache ne vit pas en France, elle est devenue majeure. En l'occurrence, la conclusion, c'est qu'elle ne peut pas bénéficier de la nationalité française par le biais de la réintégration de son père. Mais, toutefois, elle peut bénéficier d'un visa long séjour pour venir ici en France et y vivre légalement. Une fois sur place, elle aura droit à un titre de résident, à la condition qu'elle démontre les liens de filiation avec son père. Parce qu'il y a des gens qui déclarent « X est mon père » et que les autorités consulaires vont vérifier et vont se rendre compte que soit c'est une filiation de complaisance, mm-hmm. une filiation déguisée, une filiation inventée, une filiation grise, on va dire. Quand c'est le cas, effectivement, il y aura des problèmes. Donc, si la filiation est établie et que le parent continue d'exercer l'autorité parentale sur sa fille et que ce parent aussi participe à l'entretien de sa fille, elle a droit à un visa long séjour en tant que descendant d'un ressortissant français pris en charge par celui-ci. Ça, c'est de droit, c'est de plein droit. Les autorités consulaires ne pourront pas refuser. Mais mieux encore, et in fine, elle peut réclamer la nationalité française, mais pas sur l'argument qu'elle pense.
Ouais.
Ce n'est pas sur la base de la réintégration. Son père a été réintégré. Ça veut dire que son père fut français. Donc, elle est née d'un père qui est français, qui était français, parce que habitant en ce temps sur un territoire qui fut sous souveraineté française, elle est née en France bien qu'elle soit partie dans son pays d'origine, elle peut bénéficier automatiquement de plein droit de la nationalité française au regard du double droit au sol. Ça veut dire qu'elle est née en France d'un ascendant qui y est lui-même né. En l'occurrence, notre auditrice, elle est française. Si ça vous arrive que vous êtes en France, que vous soyez à Yopougon, que vous soyez à Libreville ou ailleurs, sachez que vous êtes français. Vous n'avez pas besoin de visa, vous êtes français.
Vous allez fâcher les habitants de Boaké hein, et des autres villes.
Et de Boaké aussi.
De la Côte d'Ivoire. Alors, on va partir au téléphone. On va commencer par Yves. Je suis d'origine congolaise. Je suis marié avec une Française. J'ai une carte de 10 ans. Ils n'ont pas renouvelé cette carte de travail. On va l'écouter. Allô, allô, vous êtes là ? Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, Yves, est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Bonjour Yves.
Moi je suis marié avec une Française, on a 5 enfants, tous sont français, sauf moi. Donc moi j'ai fait la demande de naturalisation depuis 2003, et après, quand j'avais la carte de 1 an. Et après on m'avait ajourné, apparemment j'avais la dette du loyer de 100 euros, et puis j'avais pas l'emploi stable. Mmh. Et là, on m'avait ajourné pour 2 ans et puis j'avais abandonné. Mais là, maintenant, j'ai voulu faire encore la demande. Je ne sais pas, il faut que je fasse par décret ou bien comment.
D'accord. Et vous êtes marié avec votre conjoint depuis combien de temps ?
Ben, ça fait au moins 22 ans ensemble.
Ouh là là, 22 ans.
Oui.
Et vous vivez ensemble, hein ?
Oui, oui.
Vous vivez sous le même toit, ou bien plus ou moins, en tout cas, vous avez une vie commune, hein ?
Oui, oui, on est mariés légalement ici, tout.
Voilà. Très bien. Je parlais de la vie commune. Si vous vivez ensemble depuis tout ce temps, vous avez perdu du temps en essayant d'être naturalisé par décret. Vous devriez demander la naturalisation du fait du mariage. À partir du moment où vous avez plus de 4 ans de vie commune effective et affective et qu'il y a des enfants qui sont nés de cette union qui le corrobore, on ne pourrait pas. Et que vous avez, peut-être que si vous avez des problèmes de revenus, je ne sais pas maintenant, vous n'avez pas des problèmes de revenus pendant 22 ans. Vous avez travaillé pendant longtemps.
Oui, oui.
Donc, il faudra voir que sur la période de référence des 12 derniers mois, si vous avez des mois de subsistance, vous remplissez la condition. Ça veut dire qu'éviter d'être systématiquement dans un état de chômage. Voilà, je pense que ce n'est pas votre cas, mais il y a des Africains qui se piègent eux-mêmes.
J'ai la CDI.
Vous avez un contrat à durée indéterminée.
Oui, je suis chauffeur routier, donc voilà.
Oui, Yves, moi je vous conseille d'aller demander à la préfecture directement qu'on vous mette dans une procédure de naturalisation du fait du mariage parce que vous remplissez les conditions.
Mariage,
oubliez la naturalisation par décret, il y a des conditions beaucoup plus strictes. Là, c'est pratiquement de plein droit.
Voilà.
Et donc, il
ne
faut pas hésiter, Yves, vous en avez droit, d'accord ? Je ne vais pas traiter les autres questions, je vais vous dire par rapport aux enfants, tout ça, mais ça devient surabondant. Ça veut dire que ce n'est plus nécessaire parce que vous remplissez une condition principale pour acquérir la nationalité française très facilement. Avec du fait du mariage et du fait que vous travaillez, vous avez un emploi stable depuis 12 mois. D'accord ?
D'accord.
Merci Yves. On va enchaîner, il y a beaucoup hein, d'appels. Yves, désolé, on va enchaîner avec Roland. Mon épouse est ici depuis 7 ans. Toute sa famille est française. Ils ne l'ont pas inclus à l'époque hein, dans le dossier. Bon, il va mieux nous expliquer. Est-ce qu'il est avec nous, Roland ?
Oui, bonjour.
Bonjour Roland.
Bonjour. Oui, effectivement, c'est ça. Elle est venue à l'âge de 7 ans et toute sa famille a la nationalité française, sauf elle. Bon, je pense qu'elle n'a pas été incluse. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, en tout cas, elle n'a pas été incluse. Et maintenant, je veux savoir comment elle pourrait faire pour avoir droit à la nationalité.
D'accord. En fait, pour avoir la nationalité, regard des liens familiaux ou bien par elle-même?
Non, regarde, liens familiaux, parce qu'elle a été à l'école ici, tout, mais bon, à cause des soucis familiaux, justement, elle a du mal aussi à avoir les documents nécessaires pour pouvoir demander la nationalité, avoir droit par rapport à sa famille.
D'accord. En fait, maintenant, ce qui se pose la question, comme elle est là depuis 7 ans, il y a deux hypothèses. Si la famille, ou bien quand je dis la famille, les parents, papa et maman, si l'un des parents a eu la nationalité, pendant qu'il était ici déjà en France, normalement, elle peut acquérir la nationalité française. Donc, cette hypothèse-là, c'est à vous de voir, de vérifier si, pendant qu'elle était là, les parents ont acquis la nationalité française postérieurement.
Oui, elle était sur le territoire français avec eux. Puis bon, vous savez, les histoires de famille. Donc,
rupture familiale.
Là, donc, du coup, voilà, sinon, elle était sur le territoire français depuis 7 ans, elle était là.
Oui, depuis 7 ans, et ça veut dire, l'autre question, c'est depuis 7 ans, c'est une condition. Est-ce que les parents ont acquis la nationalité française après qu'elle soit ici en France ou antérieurement?
Non. Après qu'elle était
bien. Maintenant, l'autre hypothèse, c'est que est-ce que cette filiation, bien que ses parents aient été ici en France, il faudrait que la filiation ait été établie pendant sa minorité. Ça veut dire qu'il puisse attester qu'elle était la fille de son père et de sa mère, ou des deux, en tout cas ça dépend de la reconnaissance, pendant sa minorité. Si c'est le cas, jusqu'à présent, elle peut acquérir systématiquement la nationalité française sans passer par la naturalisation. Et je pense que d'après ce que vous me dites, elle remplit ses conditions.
Oui, c'est exactement le cas. Elle fait partie, ça dit, je ne sais plus le document, partie des enfants, voilà, mais maintenant, on ne sait pas pourquoi ça n'a pas été fait.
Très bien, donc on va partir de cette question pour dire à tout le monde, parce que l'intérêt d'ici, c'est de dire ce que dit la loi. Ce n'est pas de faire, voilà, on ne regarde pas les pièces, on fait de manière globale ce qui vous concerne pour vous donner des informations que vous pouvez utiliser. À toute personne qui serait dans cette situation, s'il s'avère que vous êtes ici en France, depuis votre minorité, un de vos parents a acquis la nationalité française pendant la minorité, et que la filiation avec votre parent a été établie pendant votre minorité, parce que la filiation peut être établie postérieurement, on peut être reconnu plus tard, on peut faire l'objet d'une adoption tardive. Mais si c'est avant vos 18 ans, vous êtes français, vous pouvez réclamer votre nationalité française, c'est de plein droit. Ça n'a rien à voir avec la naturalisation. Par contre, il ne faut pas faire l'erreur de demander une naturalisation en disant que j'ai beaucoup de familles ici. Il n'y a aucun impact direct sur le nombre de familles vous avez ici et la naturalisation. Par contre, cette personne, votre épouse en l'occurrence, elle est française. Elle doit faire cette démarche non pas par la naturalisation, mais par la déclaration acquisitive. Elle peut aller à la préfecture ou au tribunal d'instance pour demander à ce qu'on lui mette sur la bonne démarche. D'accord ?
D'accord.
Voilà, merci beaucoup. On va enchaîner avec Caroline. Est-ce qu'elle est là ? Caroline, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, Caroline veut savoir...
Bonjour Caroline, allez où t'as-le ?
Alors, Caroline veut savoir à quoi correspond l'AGDF, c'est ça ?
L'AGDREF.
Ah, c'est assez long. Alors, Gertrude qui a noté, on a essayé de
Caroline.
Déchiffrer.
Parfait, je vais vous dire, a priori, en fait, on ne sont pas là pour... En fait, vous, votre question, on va y répondre, parce que ça concerne notre propos. Je sais que c'est pour ça peut-être que vous l'avez posé. Mais il faut dire aux autres auditeurs de ne pas me poser des questions sur des sigles. Je ne connais pas tous les sigles. Ça, je le connais parce que c'est un rapport avec notre propos. Ça signifie ACDREF. C'est le fichier de gestion des étrangers. Il y a des gens qui... Voilà, ce n'est pas votre cas de figure, mais il y a des gens qui vont essayer de poser des questions de colle. En matière de droits des étrangers, ça ne marchera jamais parce qu'on connaît trop notre propos. Donc, pour vous donner, vous, votre réponse maintenant à vous, qui est sincère, parce que c'est légitime, ça concerne le droit des étrangers, c'est le fichier dans lequel tout étranger qui vient en France est enregistré jusqu'à ce que vous soyez naturalisé avec un numéro. Si vous l'avez depuis l'étranger, par exemple, votre visa, ce numéro va commencer par l'étranger. Le code de l'étranger, c'est 99.
99.
Si la première fois, c'est la préfecture de Paris qui va la donner, ça commencera par 75. Ainsi de suite, avec des codes d'identification qui vont vous suivre jusqu'à ce que vous ayez la nationalité française. Voilà la réponse effective à votre question, Caroline.
Alors, en fait, ce que je comprends pas, c'est une amie qui a essayé justement de prendre rendez-vous pour la demande de naturalisation. Mmh. Donc, elle a avancé au niveau de la procédure, les étapes, plus ou moins. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée justement bloquée par ce code. On lui demande le code AGDERF.
D'accord.
Et ensuite, la validité. Donc, elle n'arrivait pas à avancer au niveau des étapes.
Je comprends très bien. Votre question est très intéressante. Là, en fait, c'est intéressant. En fait, effectivement, les gens peuvent ne pas savoir ce que ça veut dire. Il fallait juste appeler la préfecture pour demander ça.
Exact.
Hein, la préfecture nous sollicite. Il ne faut pas chercher ailleurs.
C'est difficile hein, de savoir. Hein.
Oui, mais je veux dire, si vous partez sur place, si vous partez sur place, bah oui, ils vont vous dire ce que ça signifie, même si vous prenez rendez-vous. Maintenant, si c'est difficile, effectivement, vous sollicitez quelqu'un comme moi ou bien une association comme la mienne, le RADUC, on est là pour vous aider. Et en l'occurrence, ce qu'il faut vous dire comme solution, c'est que votre ami, on lui demande juste de prouver que ce code est valide, parce qu'il y a des gens qui partent et que ce code n'est plus valide et qui reviennent. Ça peut être cette hypothèse. Si ce n'est pas le cas de figure, sur son titre de séjour, il est marqué un numéro.
Oui.
Et c'est ce numéro-là qui est son code ACDREF. Ou bien, si c'est un récépissé, ce sera sur le récépissé de demande de titre de séjour. D'accord ? Et donc, si c'est juste la question, il faut qu'elle communique ce numéro. Si maintenant, elle n'a plus ce numéro, ça veut dire qu'elle a dû perdre son droit au séjour et que ce numéro n'est plus valide parce que la préfecture ne parvient pas à identifier le postulant à la nationalité française. Ça veut dire qu'il faut démontrer. La question dit autrement veut dire démontrer que vous avez toujours un droit à séjour. Je suppose que votre ami a toujours un droit à séjour. On est d'accord ?
Oui.
Il lui suffit de faire la copie de son titre de séjour ou de son récépissé. L'administration aura l'information qu'elle cherche et le problème sera réglé. D'accord ?
D'accord.
Alors, bon courage.
Merci beaucoup, Caroline. On va donner la parole à Mandy. Maury, est-il là, Mandy ?
Bonjour
Mandy Maury. Alors, c'est sur les droits des travailleurs en France, des travailleurs étrangers, c'est ça votre question ?
Ouais.
Allez-y, nous vous écoutons.
Bonjour Monsieur Mendy.
Ouais, bonjour Alain Tal, ça va ?
Merci beaucoup, Monsieur Mendy Ouliaf.
moi, peut-être que je serai un peu d'ordre de question, mais c'est en propos d'un travailleur en France qui a fait regroupement familial, il a mené ses femmes. Bon, il voulait mener son enfant, l'enfant il est un peu âgé. Bon. Mm-hmm. Si l'enfant est rentré en France à notre manière, comment ça fait pour
régulariser sa situation?
Oui.
Comment régulariser la situation alors que la personne a fait entrer en France son enfant sans respecter les règles sur le regroupement familial? C'est ça votre question?
Voilà, oui.
Question très intéressante parce que ça vous concerne et ça concerne beaucoup d'étrangers. Donc, comme on a dit, le principe de l'émission, c'est de donner l'information juridique à tout le monde à travers un cas de figure que vous soulevez et ce qui fait que c'est intéressant pour toutes les personnes qui nous écoutent. Ici, comme là-bas, parce que même si on est depuis l'étranger, je donne l'exemple de quelqu'un qui veut venir et que les parents envisagent de faire venir leur enfant de Boaké. Hein, du Boaké cette fois-ci, pas Yopougon, je change. Et qu'ils pensent, parce qu'il y en a qui pensent que systématiquement, on va faire le détour. Il va penser par la Grèce, par la Turquie, ainsi de suite. Une fois sur place, on va essayer de régulariser la situation. La loi permet des cas de figure de régularisation, même si l'entrée est irrégulière. Ça veut dire que la condition qui est posée par l'article L313-2, anciennement l'article L313-7, qui exigeait le visa avant d'avoir un titre de séjour, il y a une exemption sur la condition des visas à long séjour pour avoir le droit au séjour. Normalement, vous devriez passer par cette procédure de regroupement familial avec des conditions qui sont strictes, en l'occurrence la condition de logement et de revenus. Et parfois, on a eu un rejet ou deux rejets. Mmh. On est découragé, on fait venir l'enfant par le système D. On se pose la question, comment maintenant faire
sur place, on va se débrouiller.
Sur place, comment, voilà. La possibilité pour vous, comme si toutes les attaches de cette personne sont ici, en l'occurrence ses frères et sœurs, toute la fratrie et ses parents, père et mère. Ses pères et mères sont ici en France. Monsieur Mendy.
Oui.
Est-ce que les pères et mères de l'enfant sont en France?
Oui, c'est son père et mère, ils sont en France.
Et ses frères et sœurs sont en France aussi.
Par exemple, familial, mais c'est à cause de l'enfant, il est un peu dépassé là.
Je comprends très bien. Maintenant, est-ce que ses frères, il a des frères et sœurs en France?
Non, pas encore.
Il a juste ses pères et mères. Est-ce qu'il a des frères et sœurs là-bas au pays?
Non, il est resté tout seul.
Ah, d'accord, très bien. Et effectivement, vous venez de dire un point très intéressant, il est resté tout seul. Comme il serait dans l'isolement familial dans son pays d'origine et que les seules attaches familiales qui lui restent sont en France, en l'occurrence ses pères et mères, qui ont droit à séjour, je suppose. Vous avez, les pères et mères ont droit à séjour.
Uh-huh.
Est-ce que les pères et mères ont droit au séjour?
Oui, son père et mère, oui.
Oui, ils ont le droit de séjour. Soit ils ont le droit de séjour, soit ils ont la nationalité. Dans ces cas de figure, effectivement, l'enfant peut être admis au séjour sans pour autant que la condition de visa soit demandée au titre de l'article L313-11-7 du Code des étrangers, et qui est le pendant d'une disposition européenne, en l'occurrence l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui consacre le droit à une vie privée familiale normale. Ça veut dire qu'on ne peut pas imposer une souffrance familiale à quelqu'un en le mettant dans un isolement familial absolu dans son pays d'origine où il n'a plus d'attache.
Mais faut-il apporter des preuves par rapport à cette situation ? Est-ce que si l'administration demande des preuves, comment agir ?
Effectivement, les preuves, c'est de montrer les droits au séjour de ses parents, des deux parents, que ses parents ont des attaches ici en France, en l'occurrence le travail, un logement, et que cet enfant n'a plus d'attache dans son pays d'origine. Ce sont les éléments. Et surtout, la durée du séjour, même si c'est un séjour irrégulier, il faudra prouver que l'enfant est en France depuis un certain temps. D'accord ? Si vous avez ces conditions-là, votre enfant, vous pouvez le régulariser, et c'est de plein droit. L'administration a des compétences liées. Elle ne peut pas dire non si vous amenez les preuves que Phil vient de soulever et si vous amenez les éléments que je viens de soulever. D'accord ?
Merci
et
beaucoup.
En l'occurrence, si vous avez des soucis, vous pouvez nous contacter au niveau de notre association, le RADUC.
Monsieur Mendy, merci. On va prendre cette question. C'est l'histoire d'un beau-père qui a travaillé avec les papiers d'un ami qui lui a fait savoir s'il pouvait réclamer ses droits à la retraite. Allô, allô, bonjour. Je n'ai pas le nom sur le tableau. C'est monsieur ?
Allô ?
Oui, bonjour, c'est monsieur ?
Bonjour, non, c'est M. Sidibé.
Monsieur Sidibé, nous vous écoutons.
Bonjour, M. Sidibé.
Ouais, à l'hôpital, CRNA, là. Ouais,
merci.
Je voulais renseigner ?
Oui.
Ouais, comme je me roule comme ça en voiture, est-ce que je peux avoir un numéro comme
ah, d'accord, bon.
Mais après, par contre, on va répondre à la question rapidement.
On va répondre à la question rapidement.
On va répondre à la question après, d'accord.
Qui peut avoir des droits de la retraite après avoir travaillé avec des papiers.
Ce qui est intéressant, cette question arrive souvent. Donc, il y a beaucoup d'étrangers qui sont concernés. Si on travaille sous alias, ça veut dire avec un nom d'emprunt, est-ce qu'on peut avoir quand même des droits
à la retraite
alors qu'on a violé la loi en travaillant avec le nom d'emprunt? On a eu un cas très délicat à résoudre comme ça. Il s'est avéré que c'était un Malien qui avait prêté ses papiers à plusieurs personnes. Techniquement, il ne pouvait pas travailler plus de 24 heures par jour. Or, il suffit de multiplier 8 heures que chaque personne faisait par 3 et qu'effectivement, on s'est rendu compte que la personne ne pouvait pas travailler tout ça. Sur cette base, alors que la personne qui a travaillé, une des personnes qui a travaillé avec ses papiers, s'approchait de la retraite, s'est rendu compte qu'elle a été régularisée, mais elle ne pouvait pas bénéficier des droits antérieurs. Cette personne avait plus de 55 ans. Il lui restait à peu près que de 7 ans de droits. Or, pendant 15 ans, elle a travaillé avec les papiers d'autrui. Ce serait illégitime de lui priver de ces droits-là. On a fait la démarche pour démontrer que c'est bien lui, avec des indices concordants, avec des éléments de preuve, avec des copies de ses cartes professionnelles, que c'est bien lui qui a travaillé et que l'administration ne pouvait pas l'ignorer. Et que techniquement, l'autre personne ne pouvait pas travailler H24 heures sur 24. Donc, on a pu parvenir à recouvrir ces droits-là de retraite. Et donc, effectivement, c'est une possibilité qui est là. Et donc, si vous voulez en savoir plus, si ça vous concerne, honnêtement, il faut tout faire pour que vous réclamiez ces droits-là. Si la personne des papiers duquel vous avez travaillé, elle-même travaillait, ça veut dire qu'il y a un double emploi. Une personne ne peut pas travailler à la fois à Marseille et à Paris concomitamment avec les mêmes dates.
Alors,
donc, vous pouvez réclamer vos droits.
Dernière question, vu qu'il ne reste que deux minutes. Si vous êtes né sous tutelle, est-ce qu'on a le droit de demander la nationalité ? C'est la question de Horace. Est-ce qu'il est là, Horace ? Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, Horace, nous vous écoutons.
Bonjour, Horace.
Rapidement, Horace.
Oui, j'aimerais savoir si on t'a mis sur curatelle ou tutelle, est-ce que tu as le droit de demander la nationalité ?
Voilà, merci. La question est posée et à l'UTEL va répondre. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc 0155-0758-00, précédé du 33 si vous nous appelez de l'étranger, Aliou.
Et oui, donc en fait, pas si on est né, vous êtes sous tutelle, monsieur. Hein ? La personne est sous tutelle ou curatelle, hein ?
Curatelle.
La personne est sous curatelle. La question qui se pose est de savoir si elle peut bénéficier de la nationalité française.
Oui.
Et effectivement, la personne qui est chargée de cette protection, c'est une personne majeure qui est protégée par la loi. Regarde du code civil. La personne qui incarne ses intérêts peut enclencher la procédure en lieu et place. Quand on est à curatelle, on suppose qu'on ne jouit pas de toutes ses facultés mentales ou bien de toutes ses facultés personnelles à tout temps. Ça peut être une tutelle, ça peut être des moments où on perd cette raison, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps. À partir du moment où la loi l'a décidé, il faudrait prendre la diligence à travers la personne qui incarne la tutelle et qu'elle doit démontrer qu'il y va de son intérêt. Ça peut être des intérêts matériels, ça peut être des intérêts civils. Donc, il faudra le faire. Effectivement, ce n'est pas un obstacle à la naturalisation. Mais la personne ne doit pas enclencher la procédure elle-même, ce sera un obstacle juridique. Quand on est sous tutelle ou curatelle, on est quand même privé de certains droits civils, ce droit-là en fait partie. D'accord ?
Ok, d'accord.
Parfait. Et pour d'autres informations, vous pouvez toujours nous contacter. Donc, avec l'association, on vous donnera des informations.
Voilà, avec l'association, donc 0155-0758-00, précédé du 33, où vous faites 05 à la fin et vous laissez votre message sur le répondeur d'Africa Radio au 0155-0758-05. N'hésitez surtout pas. Le droit est nous, que vous pouvez également écouter en podcast sur le site d'Africa Radio, www.africaradio.com. Merci à Lutal.
Merci Phil.
Le plus de la grande matinale sur Africa Radio. Le droit est nous, dans le plus de la grande matinale sur Africa Radio.